la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire. Le thé et le miel sont au menu de ce soir, une soirée réconfortante pour compenser la lumière qui nous fait défaut. On commence avec un chercheur de terres rares, François-Xavier Delmas, qui signe avec Ingrid Astier un dictionnaire amoureux du thé. Mélanger, broyer, infuser, blanc, noir, bleu ou bleu-vert, de quoi se repérer dans l'immense univers du thé qui prend sa source en Chine avant de se répandre et de s'ancrer dans certaines traditions comme en Angleterre ou en Inde. Un dictionnaire amoureux du thé, d'où vous est venue cette idée ?
C'est une idée qui m'est venue il y a longtemps parce que j'avais feuilleté les premiers exemplaires de cette collection. Cette collection va avoir 25 ans. Je me souviens des dictionnaires amoureux du Japon, dictionnaires amoureux de l'Inde. C'était des ouvrages magnifiques et qui donnaient de la liberté. Et je trouvais que c'était étonnant de pouvoir lire sur un sujet quelqu'un qui livrait ses émotions. Ce n'est pas un dictionnaire fait comme un abécédaire où il y a des lettres obligatoires. On sent que ça vient des tripes. Et du coup, celui qui dirigeait la collection, celui qui avait créé la collection, j'avais été le voir. Mais voilà, les choses, elles prennent du temps. Et l'année dernière, Grégory m'a dit « Ok, d'accord pour le thé, et j'aimerais bien que ce soit à quatre mains, donc pourquoi pas le faire avec quelqu'un que tu apprécies ?» Et j'ai proposé à Ingrid Astier de le faire avec moi. Et voilà, du coup, c'est une écriture à quatre mains. Ce qui ne signifie pas que les textes sont écrits à deux. Les textes sont écrits soit par l'un, soit par l'autre, en fonction des entrées. On s'est réparti les entrées. Ingrid a fait aussi les illustrations. Et c'était un moment assez enthousiasmant parce que ça donne de la liberté. Le mot liberté, c'est quand même... Le mot amoureux, déjà, est fort. Parce qu'on n'est pas là pour être des profs. On n'est pas là pour être didactique. On est là pour livrer ce en quoi le thé, ça nous fait vibrer.
Qu'est-ce que ça a été le choix de votre première entrée ?
Alors normalement on n'est pas censé dire qui. Alors si je vous le dis, du coup c'est vrai que c'est moi qui ai écrit cette entrée-là. Moi je vais vous le dire quand même, c'était le Yeti.
Oui, pourquoi le Yeti ?
Mais parce que j'ai rencontré des gens qui l'ont rencontré. Et je vais beaucoup au Népal pour mon boulot, pour être dans les fermes de thé. Et le Yeti est assez présent dans les régions isolées du Népal. Le Yeti est assez présent et donc j'ai entendu beaucoup d'histoires à son sujet. Et voilà. Et ça m'amusait aussi de commencer le dictionnaire par la périphérie du thé et pas forcément par l'essentiel et d'approcher peu à peu, de me rapprocher peu à peu du centre du réacteur, mais de commencer plutôt par quelque chose d'un peu éloigné. Et ce Yeti était pour moi merveilleux.
Est-ce qu'il aime le thé ?
Le Yeti, il aime le thé. Il connaît très bien, d'après ce que je connais de ce qu'on dit sur lui, il s'y connaît beaucoup en herboristerie et il va parfois déposer au chevet de personnes malades la nuit un bouquet de plantes aromatiques et ces personnes, quand elles vont le faire infuser, vont y trouver un bienfait.
Alors vous évoquez justement un bouquet aromatique, c'est plus large que le thé, que la plante thé, que l'on confond souvent, hein. On dit souvent on prend un thé, puis c'est pas un thé, c'est autre chose, c'est une tisane.
Alors c'est très spécifique à la langue française, où on isole le mot thé des tisanes, alors que dans la plupart des langues du monde, on utilise le mot thé pour dire tisane. Par exemple, en anglais, on va dire mint tea pour dire non pas un thé à la menthe, mais une infusion de menthe. Et en français, on a la famille des infusions qui se divise avec d'un côté le thé et de l'autre côté les tisanes. Mais c'est assez rare de faire cette distinction-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus d'amateurs de thé ou d'amateurs de plantes se tournent vers le marchand de thé pour aller s'approvisionner dans des mélanges, en mélanges qui soient gourmands, qui puissent se rapprocher de la gastronomie, qu'on puisse prendre le soir et qui ne soient pas juste quelque chose d'une plante isolée. Le thé, c'est une plante bien précise. Le thé, c'est un camélia et le camélia sinensis. Donc en français, seule une infusion de camélia, de feuilles de camélia sinensis peut s'appeler thé. Et le camélia sinensis connaît plusieurs variétés, assamica et d'autres. Et à partir de là, encore beaucoup de cépages. Donc il y a une multitude de... Et il y a toujours des recherches qui sont faites aujourd'hui. Et de même qu'on peut créer des nouveaux rosiers, on peut créer des nouveaux théiers. Et voilà, le thé, c'est ça qui est aussi intéressant, et je pense que ce dictionnaire en rend bien compte, c'est que le thé, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose d'ancré dans le passé. Souvent, dans la tête des gens, le thé, c'est nostalgie, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se tenir. Le thé, il vit, le thé, c'est la matière agricole dans le monde, c'est la matière agricole après le riz qui fait travailler le plus de gens sur Terre. C'est extrêmement humain. Le thé, ça demande une... main-d'œuvre importante parce qu'il faut aller récolter avec soin le pouce et là il faut récolter avec soin et avec le pouce éventuellement la pousse de thé et les deux feuilles suivantes et ensuite il va falloir manufacturer cette feuille de thé et le thé c'est aussi une histoire humaine au départ c'est lié au bouddhisme l'essor du thé est beaucoup lié au bouddhisme en Chine le thé est surtout né en Chine ce sont souvent des moines qui ont fait connaître le thé de monastère en monastère par sa capacité La capacité du thé, disait-il, à maintenir l'esprit en éveil et à aider à l'assimilation des connaissances à une époque où les monastères étaient des lieux d'érudition, où c'était là où on trouvait des gens qui savaient lire et écrire, des lieux d'apprentissage, et le thé aidait à cela. Et du coup, ces moines sont partis d'un monastère à un autre, et puis jusqu'en Corée, jusqu'au Japon. Et le thé s'est fait connaître de cette manière-là. Il s'est fait connaître aussi par la route de la soie. Donc le thé est parti de Chine pour aller dans les pays d'Asie centrale et puis jusqu'en Russie, en Turquie. Et puis le thé est parti après par bateau, par la mer, avec les Hollandais, les Anglais, les Portugais, pour aller jusqu'en Europe. Et tout ça, c'est des histoires humaines.
Alors il y a la grande distinction thé ou café, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une distinction géopolitique avec des continents qui seraient plus... affectés et liés au café, comme l'Amérique du Sud, par exemple, ou certaines régions d'Afrique, et d'autres liées au thé, comme l'Asie.
Oui, on oppose toujours thé et café. Oui. Ce qui est idiot, parce qu'en fait, on peut très bien aimer un amateur, on peut très bien trouver un amateur de thé qui soit aussi un amateur de café, mais il y a toujours cette idée d'opposition. Mais sur ce point que vous évoquez, vous avez raison, parce qu'il y a peu de pays qui soient à la fois des terres de... Il y en a un petit peu, et c'est récent, mais traditionnellement, oui, côté espagnol, c'était du café. Côté les anciennes colonies anglaises, oui, c'était du thé. Et les Anglais, c'est eux qui ont fait pousser le thé en Inde en ayant volé des graines en Chine. Et la partie d'Afrique de l'Est, c'est aussi la partie de l'Afrique qui produit du thé aujourd'hui. Et c'est l'Afrique qui était plutôt à influence anglaise. Donc on ressent l'histoire ancienne, mais aujourd'hui on trouve même des plantations. Alors je pense à la Tanzanie ou au Laos, où il y a des rangées de théiers entre les rangées de caféiers. Ah oui. En Colombie aussi, il y a un peu de thé en Amérique du Sud. Et en Colombie, on trouve le thé, le café et le cacao exactement dans la même région. Mais traditionnellement, en effet, les Français buvaient plutôt du café. Donc...
Il y a une lecture coloniale en même temps, quelque part.
Oui, par exemple, si vous prenez les Antilles, c'est plutôt du café parce que la France avait besoin de café, donc dans les Antilles, pour la métropole, c'était du café et c'était pas du thé. Alors qu'aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, le sol volcanique se prêterait admirablement. Alors la seule exception, c'est la Réunion, où on a fait à la Réunion, il y a une toute petite plantation de thé, mais c'est pas très significatif.
Alors vous évoquez les différents cépages, on peut aussi évoquer les différentes couleurs du thé, le blanc, le bleu, le vert, à quoi ça correspond ? Est-ce que ce sont des plantes différentes ou une manière de les traiter différemment ?
Alors, c'est avec la même plante. Donc, le thé, c'est un camélia. Important à rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent du thé depuis toujours. Et en fait, ils savent absolument pas, ils n'étaient pas au courant qu'ils buvaient une infusion de pousses de camélia. Mais voilà, on boit du camélia quand on boit du thé. Et alors, les couleurs du thé, c'est pas lié à la plante. Alors, bien sûr que si on veut faire un thé noir, éventuellement, on sait que tel cépage est plutôt plus intéressant parce que la feuille va être comme ci ou comme ça. Mais c'est après avoir récolté les feuilles dans le bâtiment de la manufacture, et c'est là que ça va se jouer. Et c'est là qu'on va faire subir à la feuille de thé un certain nombre de choses, et ce sont ces actions humaines qui vont déterminer la couleur du thé. Donc quand on récolte le thé, bien sûr on a en tête quelle couleur de thé on va manufacturer ensuite, et on va décider si on va faire un thé vert ou un thé noir, selon les traditions locales. Souvent dans un village, on fait un type de thé, puis c'est tout, parce qu'on a toujours fait cette couleur-là. Donc c'est plutôt le thé vert, c'est plutôt traditionnellement c'est la Chine et le Japon qui manufacturent des thés verts. Et les thés noirs, plutôt des thés tournés vers l'Occident. L'Inde fabrique essentiellement des thés noirs. Bon, le thé vert et les thés noirs, c'est les deux plus connus. Il y en a d'autres. Il y a des thés sombres qu'on appelle pu'er, il y a des thés semi-oxydés qu'on appelle oolong, ou bleu vert. Il y a des thés blancs, bien sûr, il y a un thé jaune plus rare. Mais les deux les plus connus en Occident, c'est thé vert et thé noir. La grande différence entre le thé vert et le thé noir, c'est que le thé noir est oxydé, alors que le thé vert n'est pas oxydé. Comme le thé vert, on ne veut pas qu'il s'oxyde, on va donner un coup de chaud pour tuer une enzyme qui s'appelle l'oxydase et qui est responsable de l'oxydation. Ce coup de chaud, on va le donner à la vapeur au Japon et on va le donner sur un wok en Chine. Et d'où deux familles gustatives, après, c'est avec des saveurs assez différentes et des arômes assez différents, parce que le thé se souvient de ce qui lui est arrivé. Et le thé noir, donc on va vouloir qu'il s'oxyde. Et pour qu'il s'oxyde, on va un peu malmener. On va d'abord laisser la feuille se flétrir. Ensuite, on va la rouler pour malmener et briser un peu ses cellules. Il ne s'agit pas de briser la feuille, mais simplement de briser ses cellules. Et ensuite, on va laisser l'air libre au contact de l'oxygène. Et la feuille va changer de couleur, va prendre cette teinte brune, exactement comme une pomme qu'on coupe en deux et qui s'oxyde. C'est exactement le même procédé. Et après, on va la sécher. Et cette oxydation, elle apporte aussi des arômes bien particuliers. Le thé noir, facilement, peut avoir des parfums de miel, de cire, de bois ciré, de pâte de fruits, de pâte de coing, de fruits compotés. Et ça, ce sont typiquement des parfums de thé noir, et c'est typiquement des parfums qui viennent de l'oxydation, qui sont des conséquences de l'oxydation.
Les Japonais ne font rien comme tout le monde et pas davantage lorsqu'il est question de thé. Et pourtant, ils ont commencé par user des mêmes pratiques que celles en vigueur chez leurs grands voisins lorsque le thé a traversé la mer Jaune dans les amples manches d'un moine bouddhiste avant d'être planté du côté de Fukuoka. C'est-à-dire qu'ils l'ont réduit en poussière en le passant dans une meule, et ce, afin d'obtenir une fine poudre. Cette délicate substance, une fois mêlée à l'eau, ils l'ont battue à l'aide d'un fouet, jusqu'à obtenir une mousse de couleur jade et la porter aux lèvres. Une dizaine de siècles plus tard, ce qui se faisait en Chine ne se fait plus qu'au Japon, qui perpétue cet art du thé pulvérisé et en a fait une cérémonie, le shanoyu. Celle-ci codifiée à l'extrême est bien japonaise, tandis qu'en Chine, en Corée, on est passé du thé battu au thé infusé. Les Japonais sont restés attachés à cette tradition et de nos jours encore, fouettent le thé avec application. Alors évidemment, autour du thé, il y a des tas de rituels et on pense évidemment au rituel japonais. Alors est-ce qu'il est d'abord lié à ce pays, puisque, vous l'avez dit en commençant, le thé, c'est d'abord la Chine. Et comme souvent, les Japonais ont pris beaucoup de choses aux Chinois.
Alors, les Japonais ont pris beaucoup de choses aux Chinois, mais si vous voulez avoir une lecture de la Chine, il faut aller au Japon, parce que les Chinois, après, sont passés à autre chose, alors qu'il y a l'idée au Japon de perpétrer, qui est très forte.
Qui n'y a pas du tout en Chine.
Et qui n'est absolument pas en Chine. Alors, les rituels, il y en a beaucoup. Là, vous citez le rituel japonais, mais c'est ça qui est aussi très intéressant avec le thé, c'est que le thé est parti dans plein de pays différents. Et dans beaucoup de pays, cela a donné naissance à des rituels. Vous allez au Maroc, il y a un rituel autour du thé. Vous allez en Angleterre, il y a un rituel. En Russie, il y a un rituel. Au Tibet, il y a un rituel. À Taïwan, en Chine, là aussi. En Inde, avec le masala chai dans la rue, bien sûr que c'est un rituel. Thé aux épices. Et le Japon a ce fameux rituel qu'on appelle le chanoyu, qui est la cérémonie japonaise de thé. Et dans le cadre de cette cérémonie japonaise, on va utiliser un thé qui est un thé en poudre et qui s'appelle le matcha, qui depuis donne lieu à un engouement de dingue du fait de certains influenceurs ou influenceuses, parce que c'est vert fluo et que ça rend super bien sur les trucs genre Instagram, TikTok et je sais pas quoi. Mais du coup, là, on s'éloigne quand même, mais sauf qu'il se trouve que voilà, ça montre aussi que le thé, c'est vivant, que voilà, tout d'un coup... on se saisit de quelque chose, peut-être que c'est juste un feu de paille, qu'après on passe à autre chose, mais peu importe, c'est amusant de voir aujourd'hui un thé revenir à la mode pour une raison différente de d'habitude, mais pour en revenir à cette cérémonie japonaise, c'est un rituel extrêmement important. Et le Japon a connu le thé entre le 8e et le 11e siècle à peu près, et c'était l'époque en Chine où il y avait ce thé battu. En fait, dans le thé, ça a 3000 ans d'histoire. Le thé, c'est la Chine, au départ. Et l'histoire du thé, c'est 3000 ans d'histoire. Et le thé a connu trois étapes. Le thé a d'abord été bouilli, puis battu, puis infusé. Bouilli, c'était jusqu'à l'époque de la dynastie Tang en Chine, donc jusqu'au 7e, 8e siècle. Le thé était bouilli, c'est-à-dire que c'était comme une soupe. Et le thé était un ingrédient. On mettait du thé, mais des oignons, de la cardamome, des clous de girofle. Et on retrouve un tout petit peu au Tibet ce thé-là, qui est le thé au beurre de yak. Enfin, le yak, c'est le mâle, alors. C'est au beurre de drie, parce que c'est le nom de la femelle. Et qu'on boit salé. Et parfois, avec une poignée de céréales au Bhoutan, on vous rajoute une poignée de céréales dans le thé. Donc, quelque chose de nourrissant. C'est vraiment l'idée de soupe. Et ensuite, on est passé, lors de la dynastie des Song, au thé battu. Et le thé battu, c'est le thé avec le fouet et c'est le fameux matcha. Donc on a fait une poudre très fine et on a battu ce thé-là dans un bol. Et quand on boit le matcha, on boit le thé lui-même puisqu'il est pulvérisé, et donc on le laisse en contact. Et c'est le thé de la cérémonie parce que ça correspond au thé que les Japonais ont rencontré. C'était comme ça qu'il était bu en Chine à cette époque-là. Et donc de nos jours, les Japonais continuent à faire ce qu'ils ont connu au 8e, 9e, 10e siècle. Donc si vous voulez savoir ce qui se passait sur le plan du thé en Chine au 10e siècle, il suffit d'aller au Japon et de voir la cérémonie japonaise du thé. Bon, après, les Japonais l'ont énormément codifié, donc ils ont ajouté beaucoup de choses. Et ensuite, en Chine, le thé a été infusé. Et donc, et uniquement à partir de ce moment-là, on a séparé les feuilles. Une fois que le thé était infusé, on séparait les feuilles pour ne boire que la liqueur, et on a arrêté d'ingérer les feuilles de thé. Et du coup, la théière est arrivée à cette époque-là, mais il y avait pas, avec le thé bouilli et le thé battu, la théière n'avait pas de raison d'être, et c'est le fait de faire infuser le thé qui a donné naissance à des nouveaux objets, la théière, le gaiwan, le zong, différents ustensiles qu'on utilise pour après pouvoir simplement ôter les feuilles de thé, ou en tout cas ne pas les boire et ne pas les avoir dans sa tasse.
Justement, les théières et les bols, ça, c'est vraiment la partie concrète et artistique de la cérémonie du thé. On ne peut pas imaginer de cérémonie du thé sans ces objets, sans la magnificence et la simplicité aussi de ces objets. D'où viennent-ils ? Est-ce que là aussi, il y a une codification qui va se mettre en place ?
Alors, ça va dépendre dans quel pays vous vous situez. Si on est au Japon, la porcelaine a de l'importance d'un pays à l'autre. C'est pas du tout les mêmes objets qui sont utilisés. Parfois, ça peut être le métal. Parfois, il n'y a pas de céramique du tout. Regardez le samovar. Le samovar, c'est que du métal. La théière dessus est métal et la tasse, c'est du verre dans un cercle de métal. Dans le cas du Japon, la théière est inexistante puisqu'on se situe à une époque où elle n'existe pas encore. Donc, on va avoir un très beau bol en raku, magnifique. Et on va avoir des ustensiles soit en bambou, comme le fouet lui-même, ou la cuillère qui va permettre de prendre dans la boîte de thé. Alors la boîte en lac, le brasero, le pot à eau usée qui seront plutôt dans de la fonte faite au nord du Japon. Ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui est créé, tous les objets, tous les rituels. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire de la céramique, notamment en Chine, est tout à fait liée au thé. Et quand vous allez à Jingdezhen en Chine, alors Jingdezhen, ça ne vous dit pas forcément grand chose, mais juste à côté de Jingdezhen, il y a un village qui s'appelle Gaolin. Alors Gaolin, ça peut peut-être nous dire un tout petit peu, parce qu'en français on dit Kaolin, mais Kaolin, c'est un nom propre au départ. Et c'est Gaolin. Et quand vous allez à Gaolin, j'ai la chance d'y aller souvent. Et c'est une ville entière qui vit de la céramique et qui est absolument magnifique. Et là, on voit tous les bleus et blancs ou les sandbœufs, enfin des tas de techniques très différentes et énormément d'objets qui sont consacrés au thé et qui permettent de mettre en valeur aussi bien le thé que la céramique elle-même. Ce qui est beau, c'est qu'il y a le contenu et il y a le contenant et ils sont inséparables. Avec le thé, tout est une question d'harmonie. Donc le tout, c'est de trouver l'harmonie et c'est à chacun de nous aussi de trouver la sienne pour trouver le contenant qui convient au contenu. Et on peut très bien imaginer que pour différentes sortes de thé, on ait chez soi tel ou tel bol, telle ou telle tasse, tel ou tel récipient qui convient.
C'est votre cas ?
Oui, bien sûr. J'ai pas du tout envie, aux mêmes heures de la journée, d'utiliser... parfois, c'est une théière, parfois, c'est ce qu'on appelle un gaiwan. C'est un tout petit bol avec un couvercle dans lequel on va pouvoir faire des infusions successives. C'est pas le même plaisir, c'est pas les mêmes gestes. Souvent, on dit qu'on va préparer un thé, mais je crois qu'en fait, quand on prépare un thé, on se prépare soi-même au thé. Et j'aime beaucoup cet aspect-là, cette sorte de dualité qui est... on va le préparer, mais lui aussi, il va nous préparer. De même que quand on fait un voyage, c'est aussi le voyage qui vous fait. Ça, c'est Nicolas Bouvier, dans tous ses merveilleux livres, qui dit cette phrase. Et il y a l'idée de se préparer soi-même au thé. Au moment où on va préparer le thé, on va commencer par se demander de quel thé on a envie, sentir différentes boîtes, soulever les couvercles et voir quel parfum vous inspire et quel thé on va se préparer, un thé vert, un thé noir ou un autre, et faire une pause. Et le thé aussi, ça nous permet de faire une sorte de moment calme, de laisser de côté tout ce qui va un peu vite dans le monde dans lequel on vit, pour avoir un moment de concentration ou de juste de faire attention au moment. Les Japonais ont une phrase très belle qui s'appelle un proverbe qui s'appelle Ichigo Ichie, qui veut dire le moment et qui est très associé au thé, qui dit que le moment que l'on vit n'existe que à cette seconde, que à cet instant. Ça, c'est une idée intéressante aussi quand on déguste un thé, de se dire qu'il faut mettre toute son attention à ce moment-là parce qu'il est unique. Et mettre son attention dans ce moment, c'est aussi mettre son attention dans les personnes qui ont pu préparer ce thé, ceux qui ont pu récolter le thé, la beauté d'un paysage, la fragilité des choses et le fait que le temps passe.
La théière est la forme visible de l'imaginaire autour du thé. Son inlassable diversité témoigne de l'investissement et de la dextérité humaine, comme de l'intarissable inspiration suscitée par l'éthéré breuvage. Reflet culturel et sociétal, elle peut être tout en sobriété ou en extravagance, artistique ou fonctionnelle, familiale ou intimiste. La Chine et le Japon en sont les creusets. Chez eux, la théière atteint des sommets d'élégance et d'équilibre. Au Japon, le raffinement des théières force le respect. Certains modèles semblent porter leur dessein, servir le thé autant que leur esprit, garder l'empreinte de l'homme et de son environnement. La main de l'artisan y reste attachée. Leur inspiration peut être animalière, le galbe de la théière aux formes adoucies rappelle alors entre autres la carapace d'une tortue, la matière peut procéder par mimétisme et la fonte s'approcher de la minéralité de la nature. Ainsi, les bouloirs en fonte au Japon sont volontairement non émaillés pour favoriser l'alliance de l'eau et du fer. Mythe ou réalité, on parle d'un dialogue vertueux entre la fonte et l'eau pour la minéraliser, idéal de la conversation où l'interlocuteur se polie à la parole de l'autre, preuve de civilité. puis alors hier, vous l'avez évoqué, la dominante anglaise qui colore quelque part le moment du thé avec une série d'expressions que l'on a et qui font partie du langage courant. Alors cette domination anglaise, est-ce qu'elle détermine une perception du thé qui est liée à un siècle, à une classe bourgeoise, à un moment de la journée?
Alors on a parfois une perception de l'Angleterre un peu bizarre à propos du thé, parce que quand on est en France, par exemple, on a l'idée que l'Angleterre, c'est une boisson. Le thé en Angleterre, ça correspond un peu à quelque chose de chic. On voit le tea time ou quasiment la reine d'Angleterre ou le roi ou la reine ou qui on veut. Et c'est un tout petit peu un contresens dans la mesure où le thé en Angleterre a été une boisson populaire, alors qu'en France, elle ne l'a jamais été. Et du coup, on prête aux Anglais une image assez erronée. Ça a été une boisson d'ouvriers en Angleterre, le thé. Il y avait des pauses pour le thé dans les usines. Au début du XXe siècle, il y avait un arrêt. Enfin, ça a commencé au début du XXe siècle où on était obligé de créer des pauses parce que les ouvriers avaient besoin de boire leur thé dans un grand mug. Donc on a l'idée toujours de quelque chose de très sophistiqué, réservé à une élite. Bah, pas tellement, le thé en Angleterre, c'est pour tout le monde. Les Anglais boivent des quantités de thé considérables, c'est 3,6 kg par habitant et par an. 3 kg, et en Irlande 3,6 kg et Angleterre 3 kg. En France, on est à 240 grammes par an et par habitant. En revanche, comme les Anglais ont une coutume bien précise à propos du thé qui consiste à mettre du lait, il leur faut des thés d'une puissance extrême et de ce fait, ils importent les qualités les moins chères qui existent. Donc les thés que vous trouvez en Angleterre, du coup vous avez aussi parfois
aussi
des gens...
C'est un contresens.
Du coup vous avez parfois des gens qui vous disent « Oh mon thé, je vais l'acheter à Londres, etc. » Mais ils ne savent pas du tout qu'en fait à Paris, le choix de thé est 10 fois supérieur à ce qu'il est à Londres. Et à Londres, vous avez un choix de thé. Alors il y a quand même des thés en feuilles entières, mais vous avez un choix de thé brisé incroyable parce que ça correspond à la façon dont la plupart des personnes aiment boire leur thé. Le grand débat sur le thé en Angleterre, c'est de savoir s'il faut mettre le lait avant ou après. Ça, je laisse ce débat à ceux qui veulent, mais après, ils ont quand même créé des choses, les Anglais, avec le thé intéressant. Bon, là, le Earl Grey, c'est quand même eux qui ont créé le Earl Grey. C'est Monsieur Grey, tout simplement, qui a décidé d'ajouter quelques gouttes de bergamote à son thé. Et puis, il y a eu tout ce qu'on appelle le high tea, le tea time, le 5 o'clock tea.
Qui appartient quand même à une classe particulière?
Alors, le 5 o'clock tea, oui. En revanche, on fait un contresens sur le high tea. Le 5 o'clock tea, c'est un thé qu'on prend à 5 heures. Et on a l'impression que si on dit high tea, on s'adresse là aussi à une société bourgeoise, plus haute, et c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on appelle le high tea? C'est le thé pris en hauteur. Pris en hauteur, ça veut dire quoi? Qu'il est pris sur une table haute et la table du repas. Et le high tea, c'est le tea time qui se transforme en dîner. Donc, ce n'est pas pour la classe bourgeoise, au contraire, parce que c'est des gens, ce thé-là, ça va aussi être leur dîner. Et le tea time, qui n'est pas le high tea, c'est celui qu'on prend dans des sofas profonds. Donc là, on n'est pas du tout en hauteur, on est assis très bas. Et c'est ce qu'il y a dans les hôtels où on vous sert des chariots de dessert avec un thé. Et plus tard, on prendra un dîner. Donc en effet, oui, ça c'est une tradition anglaise dans des hôtels assez luxueux de proposer un tea time qui est une débauche de scones, de muffins, de sandwichs. Et de tas de choses qu'on va prendre avec le thé. Ce qui est un peu bizarre avec ces histoires de tea time qu'il y a dans les hôtels, et que ce soit à Bruxelles, à Paris, partout on trouve des tea time, c'est que le thé, souvent, il n'est pas tellement considéré dans l'histoire. Donc parfois, on vous donne même le menu du tea time, vous avez la description de tout ce que vous allez manger, et vous vous dites, mais ok, mais le thé, il est où dans votre menu? Et c'est juste quelqu'un par oral qui va vous dire, pour le thé, est-ce que c'est du thé ou une coupe de champagne, ou je ne sais quoi, et c'est quand même tea time. Et c'est rare que dans un tea time, le thé soit au centre. Donc ça, c'est un peu dû aux Anglais. Donc ils ont créé des choses à leur manière. Et alors, en ce qui concerne la France et la Belgique aussi, on a fait une impasse sur le thé. Le thé, ce n'est pas dans les traditions. On est passé à côté. Pourquoi? Alors, là, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est passé à côté? Pourquoi ça ne nous a pas intéressé? Parce que souvent, on me demande pourquoi est-ce que tout d'un coup, on s'intéresse au thé? L'intérêt, c'est plutôt la question inverse. Pourquoi on est resté des décennies et des décennies en s'en fichant comme complètement du thé? Parce que si vous avez un choix de thé industriel sans aucun intérêt, pourquoi est-ce que vous voulez en boire? Et donc, ce qui a fait changer les choses, c'est sans doute l'apparition de boutiques de thé. Je pense que ça aide énormément à convaincre les personnes et tout du coup de se dire peut-être que le thé fait partie de la gastronomie. Et depuis une trentaine d'années, il y a un vrai engouement qui est une sorte de découverte. On découvre le thé et on se rend compte que c'est intéressant. Et par chance, le fait d'être passé à côté pendant des décennies fait qu'on est vierge par rapport au thé. On n'a pas une habitude, on ne va pas le prendre avec du lait, avec du sucre, on est neuf. Et du coup, on est tout à fait prêt à découvrir toutes les sortes de thé, toutes les couleurs de thé, non pas comme les Anglais, pour lesquels découvrir un thé un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de boire est plus difficile.
Vous vous souvenez de votre première tasse de thé ?
Oui, je me souviens de mon premier thé. Ça devait être chez une grand-mère. Et le thé n'avait pas d'importance. Je me souviens d'une rondelle de citron, d'une jolie porcelaine. Et je me souviens que c'était pour les adultes et que j'avais de la chance d'être admis là. Peut-être est-ce qu'il y avait une tante éloignée et je ne sais quoi. Et j'étais présenté. Et c'était quelque chose de très social. Oui, je me souviens de la jolie porcelaine, du plateau, du sucrier, du crémier. Oui, c'était une sorte de, un peu de rituel bourgeois auquel j'avais de la chance d'être admis, alors que d'habitude, ce n'est pas pour les enfants. Voilà, c'était ça le souvenir.
Alors maintenant, il y a du thé pour les enfants, c'est l'ice tea. Et cette façon sucrée, froide, industrielle, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment voyez-vous justement ce florilège de thé à l'heure actuelle que l'on décline d'après la demande en fait ?
Bon alors l'AST, ça l'a dit un moment parce que c'était au cours du XXe siècle et plutôt au début qu'on a commencé notamment aux États-Unis. Bon, c'est un peu à la suite d'une exposition universelle où on s'est mis à se dire qu'à cette température-là, personne n'allait en boire et qu'il fallait mettre des glaçons dedans. Donc c'est un côté assez américain. Ce qui est assez intéressant à l'heure actuelle, encore une fois, le thé c'est vivant, donc il y a des nouveaux engouements. Ce qui est intéressant à l'heure dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que le thé il sort de la théière et il commence vraiment à être utilisé par les chefs aussi bien comme un ingrédient que pour des associations thé. Et utiliser le thé comme un ingrédient, c'est vraiment intéressant. Ça renvoie déjà à l'histoire du thé, puisqu'au départ c'était un ingrédient, puisque c'était pour faire une soupe. Donc quelque part la boucle est bouclée, et ça c'est pas mal. Et les associations thé, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être surprenant. Et par exemple, il y a des fromages qui s'accordent extrêmement bien avec certains thés. On n'a pas besoin d'avoir un thé chaud. On peut faire infuser le thé à température ambiante pendant 45 minutes et vous allez avoir quelque chose de délicieux et qui peut s'accorder. Vous prenez un bancha ojicha japonais, par exemple, et avec un bris de mot, un bris de melun, c'est une merveille. Alors quand vous dites ça, les gens se disent « Oh là là, ils flippent en se disant « Ça y est, celui-là, il va m'enlever mon verre de vin. » Non, vous pouvez le garder, mais vous pouvez avoir rajouté en même temps un thé qui se marie parfaitement et qui donne un accord très intéressant. Et du coup, le fait qu'il y ait des tentatives de dire « Tiens, je vais faire infuser le thé de façon différente. » Alors, pas forcément glacé, encore une fois, température ambiante.
Ce que font les Japonais à température ambiante.
Oui, alors les Japonais font un peu toutes les températures, ils font température ambiante. Alors ce qui est rigolo aussi au Japon, c'est que c'est le pays qui a le record de machines distributeurs automatiques de canettes par habitant. Donc les Japonais, ils boivent le thé de toutes les formes, mais la distribution en canettes chez eux, c'est quelque chose de monstrueux. Et dans les machines japonaises, vous avez un choix de thé en canettes énorme, pas forcément sucré d'ailleurs, énorme. Et vous pouvez appuyer pour choisir la température de votre canette. Donc si c'est en plein hiver et que vous êtes sur le quai de la... le quai d'une gare à l'extérieur, et ben vous allez vous réchauffer entre vos moufles, vous allez mettre un thé brûlant, mais il peut être aussi glacé à une autre saison. Ce qui est assez intéressant, alors il y a eu le thé glacé, il y a eu des tas de sodas pas très bons, très sucrés. Faire du thé soi-même, y compris pour en faire une boisson froide, c'est simplissime. Et vous allez faire une marche en forêt, vous allez faire du kayak, vous allez faire une rando, tout ce que vous voulez. C'est rien du tout de préparer. Vous n'avez pas besoin d'avoir du thé chaud. Et vous pouvez vous faire une bonne boisson désaltérante en faisant infuser simplement à l'avance, pendant à peu près une heure, le thé que vous aimez bien, vous le mettez dans une gourde et voilà, vous avez quelque chose de sensoriel, de gustatif. On n'est pas condamné à boire de l'eau sous prétexte qu'on ne voudrait pas d'un soda trop sucré. Et je pense que le thé, utilisé de cette manière-là, a des beaux jours parce qu'on se fait du bien. Et c'est important.
Pas bien du miel, hein, mais
moi, je suis convaincu que le thé nous fait du bien. Je suis convaincu qu'il fait du bien au corps, qu'il fait du bien à l'âme. Il fait aussi ce que vous lui demandez de faire. Si vous décidez que votre thé vous empêche de dormir, Vous aurez beau boire, je vais vous faire croire que c'est un thé alors que c'est une eau avec un colorant, et vous allez avoir une insomnie pour de vrai parce que vous-même, vous vous serez persuadé. C'est d'ailleurs drôle, les gens qui craignent de ne pas pouvoir dormir, c'est toujours le thé après 5 heures. Ils disent, si je bois du thé après 5 heures, je ne dors pas. Mais tout le monde ne se couche pas à la même heure. Pourquoi ? Je n'ai jamais de ma vie entendu quelqu'un dire, si je bois du thé après 16 heures ou après 18 heures, je ne dors pas, c'est toujours 17 heures. On peut se percevoir de choses, et si on se persuade de quelque chose, oui, en effet, cette chose finit par arriver. Je pense que le thé nous fait du bien. Je ne suis pas sûr qu'il faille le voir comme un médicament. C'est plutôt une opportunité. Vous voyez, le thé nous offre la possibilité de faire une pause, de passer un moment un peu éloigné de son téléphone portable, un peu éloigné de son ordinateur. Et ça, il faut le savourer, c'est ça qu'il faut faire. Le thé, c'est une sorte de yoga aussi. Ça, le thé, on le boit assis. Vous voyez, on a envie de se tenir droit quand il est question
de
thé.
Ah, vous le dites, on se redresse.
Oui, je trouve que de se tenir droit, de faire attention à sa respiration, de ce moment calme, il nous fait du bien, il est important. Et je pense que peut-être c'est ça qui vaut plus que de savoir s'il y a tel et tel composant qui va nous permettre de nous apporter telle ou telle chose.
Et vous, quel est votre thé préféré ?
Chaque jour, chaque heure, c'est différent.
Ça veut dire que vous en avez toujours un avec vous ? J'ai un ami anglais qui a toujours son Lipton dans la poche.
Alors ça, je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes habitudes que votre ami. Mais oui, j'ai toujours pas mal de thé, différents thés avec moi. Et je trouve que le bonheur du thé, c'est de choisir le thé qui convient au moment. Et ça peut être à certains moments de la journée. Ce matin, je me suis levé avec un thé de Géorgie, un thé noir de goût mati, et un thé de Géorgie. Un peu plus tard dans la journée, si je peux déguster un gyokuro japonais, c'est une merveille. Plus tard, un darjeeling de printemps. Ça va dépendre du moment, de l'année. Il y a des saisons. C'est important d'apprécier le thé en fonction des saisons. Et puis, il y a des thés où on se lasse un peu. Et puis, comme des vieux amis, on se retrouve. On ne se brouille pas. Mais simplement, de temps en temps, on prend ses distances. Bon, celui-là, je l'ai quand même un petit peu vu. On passe à un autre. Tout d'un coup, on redécouvre un Oriental Beauty de Taïwan et on se dit qu'à merveille. Et puis après, un Longjing de Chine. Et puis, en fait, c'est comme le vin. Le thé, c'est comme le vin. Et c'est difficile. C'est comme si vous me demandez de choisir entre un pommard et un champagne. Quel est le rapport ? Je n'ai pas envie toute ma vie de ne boire que du champagne ou que du pommard. Je trouve que le bonheur, c'est de trouver ce qui convient au moment.
Et qu'est-ce qui fait la valeur économique d'un thé ? Parce qu'il y a une différence de prix très grande entre certains thés, si on les compare.
La différence de prix sur le thé est absolument colossale. Le thé industriel, ça vaut rien et ça rapporte rien aux gens. Le thé industriel, ça vaut 1,50 $ le kilo. C'est la poussière qu'on va voir dans des sachets en papier. Ça ne sert à rien. Ceux qui font pousser ça dans leur village, leur niveau de vie, ça ne va pas. Et ça n'ira jamais tant qu'on va boire ce thé, parce que personne ne va accepter de payer cher des sachets. Ça ne sert à rien du tout. Et il y a des thés qui valent des fortunes. Les thés les plus chers que j'ai vus, c'était en Chine, c'était il y a 10 ans, 15 ans, à Rangzhou, on était dans les 20 000 $ le kilo. Et voilà, il y a des Chinois pour acheter des thés comme ça. Donc, ce qui fait la valeur d'un thé, c'est combien on est prêt à mettre pour... Vous voyez, ce thé-là qui est vendu en Chine, c'est invendable à Bruxelles ou à Paris. C'est même pas imaginable. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur ? C'est le fait que quelqu'un est prêt à payer, est prêt à l'apprécier.
Sa rareté aussi ?
Oui, ça va être sa rareté. Il y a beaucoup de thés absolument délicieux qui valent 10 euros, 8 euros, 10 euros, 15 euros les 100 grammes. Et avec 100 grammes, on fait 50 tasses. Et avec ça, on a... quand même 50 tasses, c'est beaucoup, c'est à peine plus cher qu'un soda rapporté au litre. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'encore une fois, le thé, ce sont des hommes, ce sont des femmes, et c'est important qu'ils puissent vivre sur leur montagne, que les générations d'après puissent rester sur la montagne et pas partir dans une ville pour aller faire autre chose, parce que la vie serait plus possible en gagnant, en faisant son métier. Et c'est important aussi de donner de la fierté. Donc pour moi, j'attache beaucoup d'importance au fait qu'on puisse aider des fermiers à produire des thés plus beaux, plus chers, hein, qui vont leur rapporter davantage, mais qui vont faire aussi très plaisir aux clients. Donc en fait, tout le monde a y gagné. Et ça va permettre de donner aussi de la fierté à des villages tout entiers, que ce village soit en Inde, au Kenya, au Laos, en Thaïlande, en Chine, peu importe.
C'est une denrée périssable aussi.
Alors le thé, c'est une matière sèche. Donc, c'est un peu comme une épice, ce n'est jamais toxique. Donc si vous avez du thé, souvent les clients, des gens me disent, bon alors combien de temps je peux garder du thé ? Alors ma première réaction, c'est de dire, bah, si votre thé est bon, pourquoi vous buvez-le ? Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, mais combien de temps je peux le garder ? Mais pourquoi vous voulez le garder ? Buvez-le. Et en revanche, disons que le thé va perdre un petit peu, voilà, mais plus vous attendez et moins il va être intéressant. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que d'un thé à l'autre, il y a des grandes différences. Les thés vieillissent pas pareil. Les thés verts sont plutôt fragiles. Certains thés noirs sont fragiles, d'autres bougent pas pendant 2-3 ans. Et enfin, vous avez une famille de thés qui a tendance à se bonifier avec le temps. Ce sont les thés sombres qu'on appelle aussi les pouers, qui, eux, peuvent gagner. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de faire vieillir son pouer. Et on peut avoir des thés qui se bonifient en vieillissant.
Qu'est-ce que c'est ces méthodes pour faire vieillir un thé et le bonifier, même alors, si on n'est pas d'accord?
Alors déjà, ça concerne une famille de thés bien précise qu'on appelle des thés sombres. Ce sont des thés qu'on fait surtout dans le Yunnan, en Chine, et ce sont des thés fermentés. Et il y a deux méthodes. Alors déjà, pour arriver à avoir ce thé fermenté, il y a deux méthodes de fermentation. Il y a une méthode lente qui est assez ancienne. On peut imaginer d'ailleurs le thé voyageant sur la route de la soie à dos de yak, de cheval, d'âne, de tout ce que vous voulez. Et forcément, il y a la chaleur de l'animal. Et ça va modifier en fait la composition chimique de la galette qui peu à peu va légèrement fermenter. Ce process de fermentation peut prendre des années. Et en 1975, en Chine, dans la ville de Canton, il y a une femme chinoise qui a inventé une nouvelle méthode pour créer des thés fermentés, et c'est une méthode accélérée. Donc les premiers, on les appelle des pu'er sheng, et ceux-là, les pu'er shu. Et accélérée, ça veut dire qu'en 45 jours, en arrosant un peu le thé et en le maintenant sous une couverture, donc à l'abri de l'oxygène, on va faire en sorte que le thé fermente. Donc il va y avoir des moisissures, des pourritures nobles, etc. Modification de la composition chimique du thé. On va vérifier que la température ne monte pas au-dessus de 45 degrés à peu près. On va de temps à autre tourner, mais pas trop souvent, enlever la couverture, remuer et la remettre ensuite. Et ça donne des thés qui ont des parfums très inhabituels. Donc là, c'est très clivant. On est facilement dans des parfums d'étable, de sous-bois, de cave. D'humus, mousse de chêne, champignons, la biquette parfois est pas loin. Mais c'est une famille de thé très intéressante. Souvent on va le préparer dans des récipients en faisant infuser plusieurs fois de suite. Souvent c'est compressé en gâteau ou en galette. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils étaient transportés à dos de mules, compressés comme des cakes, à peu près des galettes de 300 grammes ou de 1 kilo. Il y avait plusieurs formats. Et voilà, donc ça c'est la grande famille des thés sombres. Alors après, notamment, ce sont des Chinois de Singapour, de Hong Kong, de Kuala Lumpur, qui se sont dit, mais c'était là, on peut arriver à ce qu'ils se bonifient avec le temps. Et il y a eu pas mal d'expériences qui ont été menées. En gros, si vous voulez essayer, si vous avez des galettes de pu'er et que vous voulez les faire vieillir, ce qui convient aux cigares, ce qui convient au vin, convient à peu près. Donc il faut un endroit, une cave, c'est absolument parfait pour faire ça à l'abri de la lumière quand même, à l'abri d'un excès d'humidité, mais il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. C'est un peu un mystère, le vieillissement des galettes.
Ou un art. Quel est le chapitre qui vous a le plus plu à écrire ? On a parlé du premier autour du Yeti.
Alors peut-être une suggestion d'Ingrid qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne racontes pas le thé de ton enfance ?» Et c'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Elle m'a dit « Pourquoi tu n'écrirais pas ton premier thé ?» J'ai essayé de me souvenir quel était mon premier thé. Et donc ça m'a transporté dans l'appartement de cette grand-mère qui était assez stricte et avec ce rituel bien précis. Et voilà, c'est cette évocation-là. C'est amusant l'année prochaine, ça va faire 40 ans que je suis dans le thé, que je parcours le monde pour aller chercher des thés rares partout. Et c'est intéressant de se dire « Mais au fait, le premier thé, c'était comment est-ce qu'il était ?»
C'est votre métier d'aller chercher les thés, de les revendre ensuite ?
Alors les revendre, je ne m'en occupe pas beaucoup, mais oui, c'est le métier. Et mon métier, c'est d'être chercheur de thé. Donc je parcours le monde, je passe 5 mois de l'année dans différentes plantations. Le mois dernier, j'étais au Bhoutan. Le mois prochain, je vais au Kenya à chaque fois pour trouver des thés rares.
Vous parliez des saisons. Qu'est-ce que ce serait la saison, l'automne ? Qu'est-ce que ce serait un thé d'automne ?
Alors comme ça, je dirais, ce qui me vient tout de suite, c'est un houlong, des semi-oxydés. Tout de suite, j'irais vers un Butterfly of Taiwan, quelque chose de boisé. Un thé semi-oxydé avec des notes, encore un peu des notes végétales, mais des notes de bois. On n'est pas encore dans l'hiver, donc on n'est pas encore sur justement ces pouères. Moi, je les aime bien pendant l'hiver. On n'est plus tellement sur le végétal, un peu moins sur le floral. Des thés noirs avec des notes de fruits confits aussi, des kimen de Chine par exemple aussi, un thé noir de Corée très rare qui s'appelle le Joukro, c'est parfait aussi en cette saison. Certains thés noirs des montagnes au nord du Vietnam, au nord de la Thaïlande aussi, vous avez quelques personnes qui font des thés noirs. C'est des toutes petites productions, vous avez quelqu'un qui vous dit voilà j'ai fait 80 kilos, est-ce que ça t'intéresse? Et il ne faut jamais dire moi je veux 150 kilos, non il y a 80 kilos, c'est tout. Il ne faut jamais pousser la personne à faire plus parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Il faut accepter comme c'est, le thé c'est comme ça. Si on veut que le thé soit beau, il vaut mieux que ce soit le client qui s'adapte au fermier que l'inverse, parce que sinon on va toujours vers un nivellement, vers le bas, où il faut éduquer le client. Il faut l'éduquer et lui faire comprendre qu'il y a un thé à un moment donné, et peut-être que dans 3 mois, il n'y a plus, et ce n'est pas grave. Et on va découvrir autre chose, et il va pouvoir déguster autre chose. Mais parce que si quelqu'un veut toujours le même thé. Tout au long de l'année, on finit par faire un thé industriel, à faire des mélanges, et pourquoi? C'est dommage.
Le bon thé, c'est un thé qui n'est pas mélangé.
Pas forcément, parce qu'il y a des très bons... alors, notamment au Japon, on a tendance à aller parfois mélanger certains thés de certains endroits. Le bon thé, c'est un thé en feuille entière qui convient au moment, qui est préparé aussi avec justesse. Ce qui n'est pas bon, c'est le thé industriel, ou ce qui n'est pas bon, c'est de vouloir à tout prix que quelque chose soit continu et ne soit pas modifié dans l'année. Mais vous pouvez avoir certains endroits... En fait, ce qui est compliqué avec le thé, quand vous récoltez du thé, vous récoltez des feuilles qui poussent sur différents arbustes. Et chaque arbuste, il ne raconte pas la même histoire.
Déjà, il y a un mélange.
Donc, il y a un mélange inévitable au départ. C'est que les plants de thé, surtout s'ils sont des plants qui ont été plantés au départ avec des graines, ils ne se ressemblent pas forcément, ils n'ont pas la même caractéristique. Donc, il faut quand même, dès le début, avec le thé, il y a une histoire d'apprendre à vivre ensemble et à arriver à faire quelque chose. Un bon thé, c'est celui qui s'apprécie tel qu'il est et qu'on accepte qu'il devienne introuvable après et qu'il faille passer à autre chose.
Est-ce que vous avez déjà été déçu en allant justement chercher un thé rare qu'on vous avait présenté comme rare et que la déception était au bout?
Oui, ça m'est arrivé d'être déçu pour différentes raisons. Alors, je pense à un pays, c'est moi qui pensais que j'allais trouver. Je suis revenu bredouille de Turquie. J'ai été, c'est il y a quelques années, je suis allé en Turquie, et dans la région de Trabzon, magnifique, cette région on l'appelle la Suisse en Turquie, au bord de la mer Noire, extrêmement pentue, et au-dessus sont des forêts de conifères. Simplement la façon dont on récolte les feuilles, c'est avec des cisailles, et on ne peut rien faire si on récolte des feuilles avec des cisailles. Donc je me suis dit, bon, je vais aller trouver des personnes qui récoltent sans cisailles et qui récoltent à la main. Mais en fait, ce qui est compliqué avec la Turquie, c'est qu'il y a un organisme d'État qui s'appelle Çaykur, qui a une sorte de monopole du thé en Turquie et qui achète toutes les productions et au même prix. Quel que soit ce que produisent les gens, tout leur est acheté. Et du coup, ça n'intéresse personne d'aller faire un thé différent de celui qu'ils font, puisque de toute façon, le prix est fixé et c'est celui-là. Et donc là, je suis revenu bredouille et c'est compliqué. Mais peut-être qu'un jour, je trouverai. Oui, il m'arrive parfois d'être surpris le mois dernier au Bhoutan. J'ai dû faire un jour de bagnole pour aller... En plus, les routes au Bhoutan, c'est un voyage, quoi. Parce qu'on m'a dit, voilà, il y a une personne, là, elle fait des thés, elle cultive un thé. En plus, il y a très, très peu, en tout et pour tout, au Bhoutan, j'ai rencontré 2 producteurs de thé. Et donc, je vais chez cette femme, je dors dans sa maison, et le lendemain matin, on prend chacun un panier, une hotte en osier pour aller récolter les feuilles. Je la suis sur un minuscule chemin. On marche un peu, je vois rien. Alors, j'étais un peu étonné, parce que je vois aucun théier. Et tout d'un coup, elle s'arrête devant un arbuste, elle récolte les feuilles. Mais les feuilles, elles étaient grandes comme ma main, aucun rapport avec un camélia. Et c'est simplement que c'était des feuilles de sorbier. Mais là-bas, ils appellent ça du thé parce que c'était le nom qu'ils donnaient. Donc oui, là, je suis déçu et j'ai eu une discussion avec elle. Mais c'est pas du thé. Elle me dit, pour nous, c'est du thé. Alors si pour elle, c'est du thé, je vais pas lui apprendre la vie non plus. Et ils font du thé à partir de ça. Et simplement, c'est pas des feuilles de camélia. Donc ça ne s'appelle pas du thé en France, en tout cas... Mais c'était sa manière. Et en fait, il y a une vraie histoire autour de ce thé du Bhoutan, de ces infusions du Bhoutan. C'est qu'avant, le thé venait par caravane, venait du Tibet. Et quand le Tibet a été envahi par la Chine, les routes des caravanes, elles ont été fermées. Et du coup, les gens, les habitants du les Boutanais se sont mis à faire quelque chose qui leur, comme si, avec des feuilles d'autre chose.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.